10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour professeur Alexandre Mignon.
Bonjour.
Ce matin, c'est avec vous un grand rendez-vous exceptionnel, car vous êtes à la fois un témoin et un combattant en première ligne dans le service de réanimation à l'hôpital Cochin. Vous n'êtes pas un habitué des plateaux et des studios. Votre parole est rare, mais sans phare. Et vous allez, sur le coronavirus, nous tenir un langage de vérité. Depuis hier soir, la France est en stade 3, se barricade sur ordre du gouvernement qui incite tout de même à aller voter pour les élections municipales. Nous sommes plongés individuellement, collectivement, dans une situation inédite, peut-être historique, et qui laissera des traces. Albert Camus, dans La Peste, évoque le docteur Rio, son personnage à Alger qui fait face à la peste. Il lui fait dire qu'il voulait faire comme tous ceux qui avaient l'air de croire autour de lui que la peste pouvait venir et repartir sans que le cœur des hommes en soit changé. Les épidémies perturbent l'ordre mondial, modifient les sociétés. Ce matin, avec Nicolas Barré des Échos et Damien Fleurot de CNews, vous allez nous aider à comprendre comment ce monde change sous nos yeux et sous l'effet du Covid-19. Tout d'abord, on écoute, on regarde le Premier ministre. C'était hier soir.
Ce que nous devons faire en ce moment, c'est tout simplement éviter au maximum de se rassembler, limiter les réunions amicales et familiales, n'utiliser les transports en commun que pour aller au travail et seulement si la présence physique au travail est indispensable, ne sortir de chez soi que pour faire ses courses essentielles, faire un peu d'exercice ou voter.
Professeur, est-ce que ces mesures de confinement annoncées par le Premier ministre sont la bonne solution ? Elles étaient inévitables ?
Elles sont très importantes et nous devons être collectivement responsables et les appliquer au mieux possible. Ce que je voulais vous dire en préambule, c'est que je suis venu ici pour vous parler d'un message de vérité, pas d'un message de polémique. Nous sommes devant une infection grave. Ce n'est pas une grippette, ce n'est pas la fin du monde. Les Français ne vont pas tous mourir de cette maladie. Nous avons les moyens en France de la prendre en charge de manière adaptée, avec un système de santé qui marche bien, même si, comme vous le savez, il traverse une crise depuis une vingtaine d'années. Je ne vais pas revenir sur ce sujet,
ce n'est
pas le problème. Nous sommes armés, il faut d'abord commencer par dire bravo et merci au système de santé et aux soignants. Et à ce sujet, je voudrais vous dire en premier que les pensées vont vers les infirmières. Les infirmières de toute spécialité, mais particulièrement les infirmières de médecine d'urgence, de réanimation, d'anesthésie-réanimation, qui sont en première ligne et qui risquent pour elles également, puisque les soignants vont être pour 20% d'entre eux probablement exposés à cette maladie.
Vous dites nous sommes armés, mais est-ce que les Français ont compris l'ampleur de cette épidémie, parce que dans leur comportement, dans leurs gestes, visiblement, rien n'a changé ou peu de choses changent?
Les Français ne l'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris parce qu'il y avait des messages ambigus de gens qui faisaient croire que c'était pas grave, des gens qui faisaient croire que finalement c'était juste une histoire des Chinois et des Italiens. En fait, c'est pas le cas.
Dans le monde médical, vous voulez dire ?
Il y a quelques experts qui probablement ont été un peu rapides en affaires et qui ont rassuré faussement. Aujourd'hui, de toute façon, on va pas revenir en arrière. Aujourd'hui, le combat est devant nous. C'est un combat qui est mené à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau médical. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va le gagner, mais on va le gagner ensemble.
Est-ce que d'un point de vue médical, de santé publique, c'est raisonnable d'aller voter, par exemple ?
Vous ne m'emmènerez pas, Monsieur Barré, sur des commentaires qui n'engagent que moi et qui n'ont aucun intérêt. Donc je laisse des gens bien plus compétents que moi vous répondre. Il est vrai qu'on peut difficilement comprendre pourquoi on demande un confinement maximal aux Français et qu'on maintienne des élections.
Voilà, c'est ça la vraie question.
Mais je ne souhaite pas aller plus loin dans ce débat. Je suis venu là comme médecin et pour vous donner des informations médicales et pas des informations ou des commentaires politiques qui n'ont aucun intérêt.
Mais ça, ce n'est pas du commentaire. Pardonnez-moi, pour bien comprendre et faire comprendre notre intention aussi ce matin à tous. Ce n'est pas du commentaire politique. C'est juste comprendre, est-ce qu'il y a de votre point de vue de scientifique une cohérence entre la décision du confinement maximal de ce couvre-feu sanitaire total décrété par le gouvernement et le fait quand même de dire, vous pouvez sortir pour ce quart d'heure démocratique. Est-ce que ça vous semble légitime ?
Si on considère ce que je crois qu'ils doivent être faits maintenant, de chercher un confinement maximal. Le confinement total étant très compliqué à faire, notamment en France, parce que nous ne sommes pas une dictature et on ne va pas tirer sur les gens qui sortent dans la rue contre les recommandations.
D'où ce matin, effectivement.
Voilà. Donc, si on considère que le confinement doit être maximal, comme scientifique, il m'apparaît que d'avoir maintenu le mouvement, le déplacement de gens vers des élections qui, par ailleurs, de ce que je crois comprendre, dont les résultats vont être très, très discutables, voire faussés.
On verra.
On verra plus tard. ne me paraît effectivement pas tout à fait raisonnable.
D'accord. Revenons sur l'essentiel. Les mêmes questions reviennent tout le temps. Sur le plan médical, quelle est la différence entre ce virus dit Covid-19 et le virus de la grippe, tout simplement ?
Ah bah très simplement, c'est un virus de la même famille, mais c'est un virus qui a des particularités qui nous met en situation aujourd'hui d'être devant une crise sanitaire. Ce virus, il a d'abord un coefficient de transmission, il est très contagieux. Pour vous donner un ordre d'exemple, quand vous avez la grippe, vous allez contaminer en moyenne une autre personne. Quand vous avez la rougeole, vous allez contaminer 10 autres personnes. C'est une maladie extraordinairement contagieuse. Le coronavirus est aux alentours de 3 personnes. Et il y a malheureusement quelques personnes qui sont ce qu'on appelle des super transmetteurs, qui ont probablement contaminé plus de dizaines de personnes.
C'est plutôt les enfants ?
Et effectivement, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas connues, même si on connaît énormément de choses dès à présent. Mais a priori, les enfants, bonne nouvelle, ne font pas la maladie, ou en tout cas n'en font pas les formes les plus graves. Il n'y a quasiment aucun mort chez les enfants, ça doit rassurer toutes les mamans, et notamment toutes les mamans et les infirmières qui ont leurs enfants et qui s'inquiètent. Mais pas seulement, bien sûr.
Et tout le monde, bien sûr.
Tout le monde. Et donc, les enfants sont probablement les plus transmetteurs. Et ils sont, pour beaucoup d'entre eux, asymptomatiques. Parce que 30 à 50% de la population porte le virus, mais de manière asymptomatique.
Je vais asymptomatique, concret, si ça veut
dire... Asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Ensuite, il y a des gens qui sont post-symptomatiques, ils ont la grippe, ils ont des douleurs dans les muscles, ils ont mal à la tête, ouais. Ils ont un peu de fièvre, ils toussent, ils ont le nez qui coule. C'est la grippe. C'est la grippe. Et puis enfin, il y a les formes graves, qui sont heureusement beaucoup plus rares, mais qui posent le problème aujourd'hui de santé publique et pour lequel nous souhaitons que la France endigue le plus vite possible la pandémie, c'est-à-dire qu'elle arrête l'explosion de cette maladie, de sorte que le système de santé puisse faire face et répondre aux objectifs qui sont les nôtres, qui sont de soigner tout le monde le mieux possible.
D'après ce que l'on sait, quelle est la population type touchée par ce virus ? On a beaucoup dit au départ, ce sont les personnes âgées, parce que c'était réel ou parce que l'on supposait que le virus de la grippe touche d'abord cette partie de la population.
Alors ce virus de la grippe, tout le monde le rencontre. Tout le monde le rencontre, du bas âge jusqu'aux âges les plus avancés de la vie. Si on s'intéresse maintenant, d'abord, rappelons aussi un point, c'est qu'on ne détecte pas tout le monde. Et c'est-à-dire que le nombre de gens qui portent le virus n'est totalement inconnu et c'est impossible de le connaître tellement il est grand. Donc ensuite, quand on s'intéresse aux gens chez qui on fait le diagnostic et chez qui ils vont développer des maladies les plus graves, effectivement, les données de la Chine, qui sont maintenant bien connues, les données de l'Italie et les données de la France indiquent qu'ils sont plutôt au-delà de l'âge de 50 ans et que ceux qui vont en mourir le plus sont les sujets âgés. Mais pas par l'âge physiologique, par l'âge démographique, l'âge que vous avez sur votre carte d'identité, mais par leur âge physiologique et les maladies qu'ils ont, qu'on appelle les comorbidités, qui sont l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, le diabète, l'hypertension artérielle, etc. Ces gens-là sont plus fragiles. Il y a effectivement quelques personnes jeunes dans les réanimations, mais il y en avait aussi avec la grippe normale.
Mais est-ce que vous avez vu mutation depuis quelques jours ?
Attendez voir. Sauf que, je vais vous expliquer, sauf que d'habitude, la grippe normale, elle touche le pays sur 4 à 6 mois d'hiver. Et enfin, elle touche tous les services de réanimation. Le fait qu'on ait décidé dans un premier temps, et c'était une mesure de santé publique tout à fait adaptée, de réserver les formes de Covid initiales à des services ultra spécialisés, par exemple pour la région parisienne, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et l'hôpital Bichat, a amené quelques patients jeunes à avoir des formes graves et a été un peu un sujet d'émoi pour la population et pour les professionnels. Il faudra attendre la fin de l'histoire pour savoir ce qui s'est passé. On a quand même quelques pistes sur ces sujets jeunes. Il y en a quelques-uns, ils ne sont pas très nombreux, qui auront probablement, chez qui on découvrira des facteurs de risque de développer les formes graves de la maladie, qu'elles soient génétiques, parce que nous ne sommes pas tous égaux devant la réaction à la grippe, qu'elles soient, par exemple, l'existence de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, on est un peu en surpoids, il s'avère que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et d'autres facteurs qui peuvent être, par exemple, mais qu'on doit maintenant étudier et découvrir, qui peuvent être, par exemple, l'exposition à des médicaments qui ne sont pas adaptés.
C'est ce qu'on a entendu, effectivement, de la part du ministre de la Santé, hein, notamment... certains anti-inflammatoires. Pour préciser ce que vous avez dit tout à l'heure et bien le comprendre, vous dites en fait on ne peut pas connaître le nombre de personnes touchées. La décision des pouvoirs publics de tous les jours nous annonçait un bilan. Il est sur quelle base alors ?
M'appartient pas de vous dire pourquoi et comment. Le professeur Salomon, qui est une personne éminemment respectable et respectée dans le domaine de la santé publique et de l'épidémiologie, procède pour annoncer ces choses-là. Il est dans un devoir d'information, il est en situation de devoir expliquer aux Français pourquoi et comment ça se passe. Donc en pratique, ce que je voudrais surtout vous rappeler, c'est que nous avons 80% des gens qui vont faire la grippe et qui vont faire des formes soit totalement inconnues, soit post-symptomatiques, la grippe. Nous avons ensuite 15% des gens qui vont éventuellement faire une forme un peu plus importante. Ceux-là, vous savez qu'il y a des règles qui ont été établies. Quand ils n'ont pas de signe de gravité, ils restent à la maison. Et puis quand ils sont graves, ils viennent à l'hôpital. Et puis ensuite, nous avons 5% de formes graves qui vont aller en réanimation et qui sont effectivement aujourd'hui, pour les plus âgés principalement, mais porteurs de comorbidité, ce qu'on appelle les sujets fragiles, à risque
Damien
de
décès.
Mais à quel moment doit-on s'alarmer, s'alerter quand on a des symptômes? Est-ce que si son état dégénère au fur et à mesure, il faut attendre une semaine, il faut attendre 3 jours pour s'inquiéter d'une dérive éventuellement?
Alors là, je vous renvoie aux recommandations du professeur Salomon et des autorités sanitaires françaises qui sont, jusqu'à preuve du contraire, étayées par de la littérature, par l'expérience des Chinois qui sont passés longtemps avant nous, et qui dit que si on a la grippe et qu'on n'a pas beaucoup de température, moins de 38, qu'on n'a pas de signes de gravité, on essaye, dans la mesure du possible, de rester chez soi. Que, évidemment,
cette température, elle ne doit pas évoluer pendant une semaine.
Écoutez, je ne peux pas vous répondre précisément à cette question. Je peux simplement vous dire que, inversement, si on commence à développer une forme grave, c'est-à-dire qu'on est extrêmement fébrile, qu'on a des signes de difficultés respiratoires qu'on mesure par la fréquence respiratoire, c'est un seul coup, on se met à étouffer, manquer d'oxygène, etc. On est dans le cas d'une forme grave qui doit être hospitalisée. Comme vous le savez, toutes ces choses-là sont organisées de manière ad hoc par le gouvernement.
Le virus est donc parmi nous. Quelle manière de le combattre? On se retrouve tout de suite avec le professeur Alexandre Mignon.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et tout d'abord, une correction importante. Effectivement, la peste se déroule à Oran et non à Alger, comme dit par erreur. Voilà, dont acte, on écoute, on regarde Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.
Ce stade 3, qui nécessite désormais qu'on atténue et qu'on décale au maximum les effets de la vague, est vraiment basé sur un renforcement des mesures barrières. Nous évoluons vers une épidémie généralisée dans les tout prochains jours, mais tout va dépendre du comportement du virus et surtout du respect par les individus et par la collectivité des mesures barrières.
Alors, professeur Mignon, quand on entend Jérôme Salomon dire « tout va dépendre du comportement du virus », comment est-ce qu'il faut comprendre ça?
Je crois qu'il, naturellement, il a parfaitement raison, hein, c'est un expert. Ça va dépendre aussi du comportement des Français. Alors, ils disent, mais en fait, parce que le virus, c'est pas le virus qui voyage, c'est les Français qui voyagent et qui le transmettent. Donc, je pense que c'était ce qui était sous-entendu dans la phrase du professeur Salomon. Oui, il y a encore beaucoup d'incertitudes. J'ai envie de vous dire que le vrai scientifique doit vous dire très, très franchement...
Que vous êtes ?
Qu'on sait beaucoup, beaucoup de choses. La mondialisation, de ce point de vue-là, a du bien, parce que nous recevons des informations de partout, de tous les pays qui communiquent extrêmement vite. Mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore.
Alors, on voudrait avec vous démêler le vrai du faux, parce qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent. Par exemple, on dit que le virus ne résiste pas à la chaleur ni au soleil. C'est vrai ou c'est faux?
Je crois qu'honnêtement, personne ne peut vous répondre raisonnablement et scientifiquement sur le sujet. Encore une fois, faites attention à toutes ces fake news, toute cette manipulation, tous les gens qui profitent un peu de cette situation.
Oui, mais professeur Mignon, oui. Là, sur cette question,
oui.
On dit qu'il faut s'exposer au soleil pour tuer le virus.
C'est faux.
Bon. On dit qu'on peut boire de l'eau chaude, ça tue le virus.
Je ne sais pas, je ne crois pas.
La taille du virus, on dit, est assez grande et donc tous les types de masques peuvent l'arrêter. C'est vrai ou c'est faux?
Sur les masques, nous avons deux types de masques. Nous avons les masques classiques, que nous utilisons par exemple dans les blocs opératoires, qui sont des masques chirurgicaux. Et puis nous avons des masques plus conséquents, qu'on appelle FFP2, et qui permettent principalement de protéger les soignants de la contamination. Parce que le point important, c'est que les soignants qui vous soignent vont, pour 20% d'entre eux, être sujets à la grippe. Et d'autant plus qu'ils soignent des patients, et d'autant plus que ces patients sécrètent ou excrètent beaucoup de gouttelettes, qui est le mode de transmission du virus. Donc ces gens-là doivent se protéger et ils utilisent des masques dits FFP2.
Nicolas Barré.
Alors, on entend aussi que le virus reste actif sur certaines surfaces, par exemple des surfaces métalliques pendant 12 heures. C'est exact?
Il est exact que le virus a des caractéristiques un peu différentes des virus de la grippe habituels, à savoir Il est probablement plus résistant, notamment sur les surfaces externes, c'est plus compliqué de s'en débarrasser, qu'il a une contagiosité, je vous l'ai déjà dit, plus importante. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire qu'il y a un effet de l'inoculum, c'est-à-dire que quand vous êtes malade, et vous êtes malade avec plus une charge virale, c'est-à-dire plus ou moins, une quantité plus ou moins importante de virus à l'intérieur de vous-même, et cette quantité probablement détermine que vous allez ou non faire une forme plus grave. C'est aussi ce qui détermine que vous êtes plus ou moins contaminant. Donc comme vous ne savez pas quel est l'inoculum des gens qui sont en face de vous, les mesures de confinement paraissent tout à fait adaptées, de manière temporaire évidemment, mais de manière à nous permettre, et c'est ça que les gens doivent bien comprendre, comprend bien que les confinements, ce n'est pas agréable, de limiter au maximum les activités à ce qui ne peut pas ne pas être fait, ce n'est pas la mode de vie des Français. Nous, ce qu'on aime, c'est la vie sociale, c'est rencontrer des gens, c'est bouger, etc. Là, nous sommes devant une situation où il faut vraiment qu'on fasse tous collectivement un effort. Et si on pouvait faire presque comme les Chinois ou les Coréens du Sud, même Singapour, qui a réellement et qui utilise maintenant les masques de manière courante, qui se protègent et qui ont réussi à limiter, notamment pour les deux derniers, Corée du Sud et Singapour, limiter le pic de sorte que nous ayons un aplatissement de la courbe et un afflux moins important de victimes, de patients atteints, notamment des formes graves, qui peuvent déstabiliser le système de santé.
Ça, effectivement, on en parlera. Donc, ce que vous dites, vous, ce matin, c'est qu'en fait, tout le monde devrait, aujourd'hui, porter un masque ?
Écoutez, c'est difficile pour moi de vous dire, puisque je ne suis pas le représentant de l'autorité d'État.
Non, mais d'après votre analyse,
mon analyse, c'est que probablement, le port du masque pourrait être extrêmement utile pour renforcer les mesures de confinement. Et que, comme vous le savez, il y a des problèmes d'approvisionnement, et y compris dans les hôpitaux. Donc c'est difficile de vous dire, probablement plus souvent le masque. Ce qu'il y a de sûr, c'est par contre, quand on est atteint, ça c'est tout à fait évident, et quand on est soignant encore plus, puisque l'objectif c'est que les soignants n'attrapent pas.
Quand on est atteint, on l'avait compris, effectivement.
Une autre question que l'on peut se poser, est-ce que l'on peut faire un test simple en arrêtant de respirer pendant une dizaine de secondes, et si on ne tousse pas ensuite? Eh bien, ça veut dire que le système respiratoire fonctionne et qu'on n'est pas atteint du virus.
Il y a informations qui circulent sur les réseaux.
Mais il y a tellement d'informations qui circulent qu'il faut rester raisonnable. Je n'ai pas lu, mais je n'ai pas tout lu, comme vous avez compris, la littérature. Je n'ai pas entendu parler de cette capacité à détecter sans faire le test par le prélèvement du coronavirus. Ce qui est par contre intéressant, c'est qu'il y a une recherche considérable qui s'est mise en place, notamment pour utiliser tous les outils de la révolution numérique, l'intelligence artificielle, etc., pour pouvoir détecter dans les comportements des individus, sur leurs signes vitaux qui sont maintenant mesurés par des vêtements connectés, des montres, etc., plus de leurs activités de la vie quotidienne, ce qu'on appelle les métadonnées, qu'on puisse arriver demain à identifier ceux qui sont contaminés sans qu'on ait besoin de leur faire le test ou qu'on ait besoin de les faire venir dans les hôpitaux.
Alors la question suivante, quand on vous écoute, bien sûr, c'est est-ce qu'on peut trouver un vaccin ? Est-ce que la recherche est déjà engagée, telle qu'on le comprend, chaque pays dans son coin a l'air de partir à la course au trésor, si je puis dire, pour trouver ce fameux vaccin ? Qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet aujourd'hui, selon ce que vous savez ?
Alors avant de parler des vaccins, parce que pour obtenir un vaccin, ça va prendre du temps. Et donc la crise qui est devant nous, qui va durer probablement 3 mois, ne sera pas résolue par la découverte du vaccin. Ça, c'est clair. Donc la première chose, la première étape qu'on pourrait aussi se poser comme question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des médicaments ? Et comme vous pouvez bien l'imaginer, tout un tas de médicaments sont testés, ont été testés déjà, notamment par les Chinois, y compris les herbes, des solutions non médicamenteuses, etc. Et pour l'instant, il n'y a rien.
Pour l'instant, il n'y a aucun médicament contre le coronavirus.
Pour l'instant, il faut regarder. Des petites études ont éventuellement suggéré que quelques antiviraux pourraient être efficaces, mais il faut qu'on regarde ça vraiment très en détail. Il y a de nombreux essais, et contrairement à ce que vous disiez, il y a des essais qui sont isolés, puis il y a aussi beaucoup de démarches européennes, nationales, pour faire des grands essais qui sont acceptables sur le plan de la méthodologie, parce que la science, c'est de se poser une question et d'y répondre avec les bons outils.
Mais pourquoi est-ce que c'est si long de trouver un vaccin alors que les laboratoires du monde entier, les scientifiques du monde entier travaillent ensemble, nous dit-on ? Pourquoi est-ce que c'est si long de trouver un vaccin ?
Écoutez, parce qu'il faut d'abord savoir identifier la bonne cible, ensuite développer les vaccins, ensuite vérifier qu'ils ont une innocuité et une efficacité, qu'il faille le faire sur des cellules, sur des animaux, puis ensuite sur des hommes dans le cadre d'essais de contrôle.
Et là, il y a des délais incompressibles.
Il y a des délais qui sont parfaitement incompressibles.
Incompressibles. Certains pays disent quelques semaines. C'est vrai ou faux ?
Si certains pays qui vont mettre le paquet, et le message, c'est surtout qu'on mette le paquet aussi chez nous, mais je crois qu'on le fait. Et si certains pays arrivent à découvrir un vaccin dans les trois mois qui viennent, eh bien, nous serons ravis que ce vaccin arrive. Et s'il est sain, s'il est sûr et s'il est efficace, il faudra l'utiliser naturellement.
Damien Fleureau.
Alors, il y a un sujet autour des anti-inflammatoires. Sont-ils dangereux en cas d'infection au coronavirus ? C'est ce qu'a dit d'ailleurs dans un message publié sur son réseau social Twitter Olivier Véran, le ministre de la Santé. Il déconseille d'en prendre en cas de fièvre. Vous allez, j'imagine, dans son sens également.
Écoutez, comment ne pas aller dans le sens du ministre de la Santé qui assoit son tweet et assoit ses recommandations sur celles qui lui sont fournies par un comité scientifique d'experts du plus haut niveau, et nous avons en France tout ce qui va bien pour donner des recommandations de cette nature. Ça me permet de vous donner une explication sur ce qui se passe. Quand vous rencontrez le virus, ce virus a un tropisme, c'est-à-dire qu'il va venir se mettre particulièrement au niveau du poumon. Et au niveau du poumon, il se trouve que vous allez réagir, les organismes vont réagir pour essayer de vous débarrasser du virus. Ils vont donc déclencher une réaction immunitaire et une réaction inflammatoire. Cette inflammation est responsable de l'atteinte du poumon qui explique que l'on devient en manque d'oxygène, on est hypoxique, on manque d'oxygène, et qu'éventuellement on va avoir besoin d'oxygène supplémentaire par des techniques toutes simples de masques, puis ensuite, éventuellement, des techniques un peu plus sophistiquées où on vous pousse de l'oxygène dans les poumons. Et enfin, qu'on a à un moment donné besoin de vous mettre un tuyau dans la trachée pour vous amener de l'oxygène par des respirateurs, ces machines qui poussent de l'oxygène. Et puis qu'enfin, quand vous n'arrivez plus à faire respirer les malades parce qu'ils manquent complètement d'oxygène malgré toutes ces techniques, des techniques tout à fait exceptionnelles qu'on appelle les circulations extracorporelles, on sort votre sang, l'oxygène, et on vous le réinjecte. Donc vous voyez qu'il y a une escalade possible. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans les formes graves, probablement, il y a un excès de réaction inflammatoire. L'inflammation, c'est quelque chose de compliqué, parce qu'en même temps, il en faut pour vous défendre, mais en même temps, quand vous en faites trop, peut-être c'est délétère. Et aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui ont avancé les difficultés, ou en tout cas que dans les facteurs de risque de certains sujets, notamment des sujets jeunes, il y aurait pu avoir des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je ne suis pas sûr que ça soit définitivement établi, mais puisque le ministre et nos autorités de santé disent n'en prenez pas autant que possible, j'ai envie de vous dire, n'en prenez pas autant que possible.
Alors, pour continuer à comprendre, Damien Fleureau.
Une toute petite question sur le confinement. Des millions de Français sont confinés chez eux. Est-ce qu'il faut ouvrir les fenêtres régulièrement de sa maison, de son appartement ?
Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas assez compétent pour le faire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on a les patients atteints, et notamment dans les réanimations, ce qu'on a appris surtout, c'est qu'il fallait garder les virus auprès du patient. C'est pour ça qu'on a maintenant des systèmes qui permettent d'avoir des flux négatifs aspirants qui gardent les particules autour du patient dans sa chambre et qui ne les envoient pas à l'extérieur. Ce qui n'est pas bon dans la diffusion du virus, c'est que le virus se balade et qu'il sorte un peu n'importe où. Et c'est probablement comme ça que dans certains pays, il y a eu une accélération très rapide de la pandémie parce qu'il y a eu une diffusion très rapide des virus, une expectoration des gouttelettes qui ont circulé et éventuellement en grande quantité et qui ont fait beaucoup de formes graves.
Professeur Alexandre Mignon, vous êtes au cœur de la bataille dans les salles de réanimation. Vous allez nous dire comment ça se passe. A tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et notre invité exceptionnel, le professeur Alexandre Mignon, qui est au cœur de la bataille dans les salles de réanimation. Vous tenez le choc ? Comment ça se passe ?
Alors écoutez, c'est très intéressant et très sympathique que vous mentionniez l'effort majeur qui est fait par les équipes soignantes aujourd'hui. Dans les services de réanimation, tout le monde est sur le pont. Des mesures ont été adoptées très rapidement avec une très forte mobilisation et intelligence collective pour que les activités non indispensables, dites programmées, soient arrêtées. Et que l'hôpital puisse répondre, notamment dans la prise en charge des formes graves. À nouveau, immense respect et immense merci à tous les gens qui sont en première ligne et nos infirmières qui soignent tous les jours. Tous les jours, nous soignons aussi, évidemment, mais les infirmières, j'ai une pensée pour elles.
En situation de débordement, que vous êtes, on parle de tsunami qui arrive dans les salles de réanimation, dans les services de réanimation. Est-ce que c'est vrai ?
Alors écoutez, je pense qu'il y a un aspect un peu de communication pour dire tsunami. C'est-à-dire qu'on veut mobiliser et dire aux Français qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce que réellement, il y a effectivement un nombre important de patients qui sont en train d'arriver et risquent d'arriver et d'emboliser, de d'occuper nos réanimations et les hôpitaux pendant les 3 prochains mois qui viennent.
Mais est-ce qu'il y a des endroits sur le territoire en France où vos collègues des services de réanimation sont déjà au point de saturation ?
Il y en a, il y a des appels, notamment dans la région Est, à Mulhouse, à Strasbourg.
La région Grand Est qui a été touchée,
un des premiers clusters, comme on dit. Sur la région parisienne que je connais bien, nous recevons tous les jours les relevés des centres de réanimation, de ce qui se passe, et nous avons de la réserve. Tout ça, pourquoi ? Parce que nous sommes en situation, et nous avons été collectivement, et bien entendu sous l'égide des gouvernements, incités à réorganiser l'offre de soins, et à s'adapter de sorte que, par exemple, des unités qui ne prennent pas en charge d'habitude des patients de réanimation puissent le faire. Les salles de réveil, par exemple, l'endroit où vous vous réveillez après une intervention chirurgicale. Si on supprime l'activité programmée, elle peut, parce qu'elle a à l'intérieur du personnel et du matériel, prendre en charge des patients, pas Covid plus, mais des patients Covid moins, parce que ces patients-là continuent d'arriver. Nous avons encore des accidents de la route, nous avons encore des infarctus du myocarde, nous avons encore des infections qui nécessitent des soins de réanimation. Donc oui, il y a une très belle réactivité, c'est tout à fait exceptionnel et très impressionnant. Il y a probablement quelques points de tension, mais ça va... Ça va le faire, on va y arriver.
Alors, ce que vous nous dites est très important, parce qu'effectivement, la vie continue et les accidents de la vie continuent bien à sûr. Côté du virus et ils arrivent aussi chez vous. Ce qui veut dire que dans le cas de la situation, est-ce que vous trouvez déjà, face à la situation peut-être de vos confrères en Italie, qui est de devoir trier, choisir, sélectionner, prioriser les personnes qui devront être en réanimation ?
À ma connaissance, non. Nous n'avons pas à faire de choix et je voudrais rassurer les Français à ce sujet. Par contre, ce qui est très important, c'est que si on n'appliquait pas les mesures recommandées aujourd'hui d'un confinement, de mon point de vue, très strict, on risquerait d'avoir un afflux massif de patients et de se retrouver dans la situation de quelques hôpitaux du nord de l'Italie qui ont fait et qui ont été relativement débordés. C'est très important qu'on discute de ce sujet parce que je voudrais rassurer les Français. Le métier du réanimateur, c'est de choisir. Mais ça, c'est tous les jours. Ce n'est pas spécifique à Covid. C'est depuis qu'on est réanimateur. Quel patient va bénéficier d'aller en réanimation ? Tout ça s'intègre sur le type de maladie, sur l'âge, mais à nouveau pas l'âge sur votre carte d'identité.
Physiologique.
L'âge physiologique, l'existence de ce qu'on appelle comorbidité. Et surtout, les chances et le pronostic que vous avez à passer une longue période de votre vie en réanimation, car on le sait maintenant, quand on rentre en réanimation avec Covid, on va y rester probablement assez longtemps.
C'est-à-dire combien de temps ?
Probablement 3 à 4 semaines au minimum. Et donc dans ce contexte, j'entends les formes très graves, notamment les formes qui sont ventilées avec un respirateur. Et donc dans ce contexte, tous les jours, nous devons décider s'il y a un intérêt à faire ou non de la réanimation. Et ça, c'est réglé en France depuis très longtemps.
Donc cette question de dilemme absolu que l'on entend depuis quelques jours, en particulier venant donc d'Italie, est plutôt liée à une situation d'équipement ou de nombre de personnes qui arrivent. Vous nous dites en France, on n'est pas encore dans cette situation.
On n'est pas dans cette situation-là, parce que comme je vous le dis, il y a des réserves en termes de structure, il y a des réserves en termes de personnel, mais celles-là peuvent se fatiguer, attraper la grippe, puisqu'on considère que 20% des soignants vont attraper la grippe. Et donc, ils vont être arrêtés, parce qu'ils ne peuvent pas soigner des gens au risque de les aggraver ou de leur transmettre la grippe.
Mais justement,
Damien Fleurot,
vous dites qu'il n'y aura pas de choix, a priori, mais est-ce qu'on peut s'interroger sur le personnel soignant et la qualification du personnel soignant quand il faut faire appel à des étudiants, à la réserve sanitaire ? Est-ce que nous serons tous soignés demain de la même façon ?
Écoutez, je n'ai aucun doute sur ça, en l'état aujourd'hui, alors que je vous parle le 15 mars, parce que, évidemment, vous comprenez bien qu'on ne va pas envoyer des étudiants en médecine à peine formés s'occuper des formes graves dans les réanimations. Les réanimateurs spécialisés s'occupent des formes les plus graves. Par contre, nous avons de la réserve. Nous avons de la réserve, d'abord, avant l'hôpital, de la médecine de ville. Énormément de médecins de ville vont jouer un rôle majeur.
Ils jouent
complètement le jeu. La deuxième chose, nous avons les récemment retraités. Les gens qui sont partis en retraite d'il y a 1, 2, 5 ans sont encore parfaitement compétents pour soit venir parce qu'ils étaient anesthésistes réanimateurs, soit parce qu'ils sont médecins de ville, aider et donner un coup de main. Les plus jeunes, peuvent être aussi utilisés. D'abord, nous avons des internes qu'on appelle des juniors. Ces juniors, pour beaucoup d'entre eux, sont déjà au-delà du sixième semestre. Ça fait déjà 3 à 4 ans de formation. C'est pas très compliqué. Et donc, ces gens-là vont pouvoir très rapidement être mis en situation d'être séniorisés, sans risque pour les patients, parce qu'ils sont toujours surveillés. Et puis, enfin, les étudiants en médecine peuvent faire des choses magnifiques. Ils peuvent, par exemple, les étudiants de sage-femme peuvent demain s'occuper des enfants des personnels soignants. Les étudiants en médecine peuvent jouer leur rôle. Et là, il y a une mobilisation d'une intelligence collective extraordinaire dans notre pays. Tous les jours, on entend des initiatives et on va y arriver.
À l'instant même, Jean-Michel Blanquer vient de déclarer que cette épidémie va toucher probablement plus de la moitié de la population française. Ce que vous nous expliquez, c'est qu'il va falloir aussi avoir un dispositif hospitalier considérable. On entend depuis aussi quelques jours des situations parfois de carence de matériel de base, les masques, les blouses, le gel hydroalcoolique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet dans ce que vous vivez tous les jours ?
Aujourd'hui, pour la région parisienne, des services qui sont en très grande activité, notamment les deux grands services de réanimation qui ont pris les premiers patients Covid+, des services dirigés par le professeur Demoule à la Pitié-Salpêtrière et le professeur Timsit à l'hôpital Bichat. Eux sont déjà depuis plusieurs jours, plusieurs semaines à fond. Et eux, effectivement, sont fatigués et on les comprend. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on se rend compte que là, on a démarré le stade 3, c'est-à-dire le début de cette grande cloche, on va donc réorganiser les soins de sorte que dans les CHG, dans les centres hospitaliers généraux, dans les réanimations, je dis ça pas tout à fait, je choisis les villes par hasard, il ne faut pas que les gens s'inquiètent, de Périgueux ou de Roanne ou de Rodez, on sera aussi très bien soigné, d'abord des situations qui vous amènent en réanimation et qui ne sont pas Covid, et éventuellement, si vous y a Covid, on vous soignera aussi très bien. Ouais. Donc il ne faut pas que les gens imaginent que s'ils développent la grippe, une forme grave qui nécessite des soins de réanimation, ils devront exclusivement être soignés dans les centres de référence. Ça ne sera plus le cas. D'accord. Et on vous soignera très très bien dans toutes les réanimations où il y a des docteurs qui sont formés pour ça.
Si on devait aller un cran plus loin dans ces mesures de prévention, ce serait quoi ? Est-ce que, par exemple, comme en Italie, il faudrait restreindre la circulation d'une région à l'autre, empêcher de sortir de certaines villes, de Paris par exemple ?
Alors ça, c'est la question. C'est la grande question. C'est-à-dire que pendant un temps, la stratégie était de dire il ne faut peut-être pas adopter en France des mesures de confinement extrêmes. Mmh. Il y avait tout un tas de rationnels pour ça. D'abord, les conséquences sur les activités économiques. Parce que quand vous faites un confinement extrême, vous limitez aussi l'accès et la possibilité pour les soignants de venir faire leur métier. Ensuite, comme vous le savez, mais peut-être on en reparlera, les crises économiques ont des conséquences sanitaires terribles.
On en reparlera,
terribles.
Oui.
Enfin, il y avait peut-être un tout petit peu de fanfaronnerie à l'européenne. Oui, c'est les Chinois, c'est pas grave. Quand on a vu arriver ça en Italie, on a dit oui, c'est le système italien. Il faudra faire le bilan. Il y avait peut-être aussi en Italie quelques spécificités qui expliquent qu'ils sont allés plus vite que nous. Ils ont 15 jours d'avance par rapport à nous sur la pandémie. Maintenant, on a changé. On a changé parce qu'effectivement, quand les comités scientifiques évaluent des scénarios indiquant qu'on pourrait passer aujourd'hui de 4500 personnes documentées pour avoir la grippe, à 100 000 personnes documentées pour avoir la grippe, et maintenant le ministre nous dit que 50% de la population pourrait l'avoir, alors calculez que si vous avez 5% de forme mortelle, ça fait 5 000 morts. 5 000 morts en une semaine ou en deux semaines. Donc là, maintenant, on change vraiment de catégorie. On est dans une situation de l'union nationale, on oublie les polémiques, on n'est pas sur le sujet. Tous les individus, les soignants comme les non-soignants, doivent réfléchir au meilleur comportement pour freiner la montée, l'accélération
et donc
la pandémie, écrêter la pandémie, comme l'a bien montré Olivier Véran, de sorte que nous ayons probablement autant de patients atteints de la Covid, autant de patients atteints des formes graves, mais qu'ils soient plus répartis dans le temps, de sorte que tout le monde puisse être soigné dans les meilleures conditions.
Professeur Meignon, on a assisté depuis quelques jours, effectivement, à cette différenciation. Effectivement, c'était... On gérait ça de manière différente avec les foyers et on ne prenait pas de mesures générales. Avec le recul, on pourrait dire que c'était la bonne mesure quand même ou ça a été au fond une erreur d'appréciation ?
Monsieur Darmon, je ne suis incapable de vous répondre à cette question aujourd'hui. Seuls les retours d'expérience dans un an, dans deux ans où on fera le point, en comparant les stratégies des différents pays, nous permettront de conclure. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Et de toute façon, ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas de faire de la polémique. Le sujet, c'est de dire nous devons collectivement nous battre et promettre de la sueur et des larmes, pour paraphraser Winston Churchill, mais pour la victoire.
Pas de polémique, mais des prospectives. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et notre invité, le professeur Alexandre Mignon, qui nous explique tout le dispositif pour lutter contre le Covid-19. Nicolas Barré.
Et question sur le calendrier de cette épidémie, si toutefois on peut le prévoir. Est-ce que, d'après les données que vous avez, on peut dire quand on atteindra le pic ?
Je crois que personne raisonnablement peut vous dire, sauf à lire dans le marc de café et à prendre un grand risque et puis finalement gagner parce que... Voilà, personne ne peut vous dire exactement. Par contre, ce qu'on peut clairement faire, c'est regarder ce qui s'est passé avant chez les autres, chez les Chinois, chez les Italiens. Et de ce que j'ai cru comprendre des épidémiologistes, on attend une période de la cloche, c'est-à-dire la montée puis le début de la redescente, aux alentours de 3 mois.
On peut calquer le modèle de ce virus français,
cette trajectoire
sur celle suivie en Chine, alors que les pays n'ont pas fait face de la même façon.
Il y a des profils évolutifs qui sont très communs dans un certain nombre de pays, les pays européens, l'Italie, la France. Quand vous regardez la courbe, elle est parfaitement superposable. Il y a quelques pays qui ont eu une courbe plus plate, qui ont réussi à le faire. Il faut expliquer pourquoi ils ont réussi à faire ça. D'abord parce qu'ils avaient été formés par un antivirus qui s'appelait le SRAS. Et ils avaient été capables d'identifier très rapidement les personnes qui avaient commencé à diffuser la maladie et ils les avaient bloquées. Le confinement avait d'abord été autour des premières personnes qui avaient amené la maladie. Et puis enfin, dans ces pays, il y a une discipline et il y a des règles qui sont plutôt bien respectées. Il y a aussi certains pays où finalement, par exemple avec la reconnaissance faciale, si vous sortez sans le masque, vous êtes reconnu et on peut soit vous emmener en prison, soit éventuellement vous faire disparaître.
Pour être tout à fait clair sur ce que vous dites sur cette courbe de 3 mois, c'est la durée totale de la courbe. Hein. On est bien d'accord. Donc le pic.
Un pic. Vous avez bien compris que l'objectif, c'est d'essayer d'écréter ou d'aplatir la courbe pour qu'on soit toujours en dessous des saturations du système de santé. Donc on puisse étaler le nombre des gens qui vont être infectés et notamment les gens dans les formes graves. Donc, de ce que je crois avoir compris, mais là encore, je ne suis pas un épidémiologiste, il m'apparaît que nous allons avoir une période difficile dans les 3 prochains mois.
Depuis quelques jours, l'épidémie, sa progression est scandée quotidiennement par des déclarations du président de la République sur le terrain, entouré donc de scientifiques, entouré de médecins, au SAMU, à l'hôpital. Il s'est adressé aussi à la Nation jeudi. On écoute, on regarde.
Je compte sur vous, toutes et tous, pour faire nation, au fond. Pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse qui, par le passé, a permis à la France d'affronter les plus dures épreuves.
En Italie, en Espagne, on a vu des scènes où les gens applaudissent les personnels soignants. Vous êtes un petit peu aujourd'hui, pour beaucoup de Français, si ce n'est la totalité, des héros en blouse blanche. Vous sentez le poids du pays sur vos épaules ?
Non, pas du tout. Nous faisons notre métier et nous répondons à notre mission et à notre engagement de soigner au mieux possible, avec les meilleurs moyens possibles, de manière éthique, toute la population. Nous ne sommes pas des héros, nous faisons notre travail.
Mais peut-être tout de même que la perception a changé aussi de la part de nos responsables politiques ces dernières années, toutes tendances confondues, qui ont peut-être délaissé ce secteur de la santé, l'hôpital, on l'a dit, en crise ces derniers mois.
Écoutez, je suis venu pour vous parler de médecine, je ne suis pas venu pour vous parler de politique, même si, comme vous pouvez bien imaginer, j'ai quelques idées sur le sujet. Oui, ce n'est pas trahir un secret de vous dire que l'hôpital ne va pas très bien, qu'il est en tension. Il est en tension parce que probablement depuis près de 20 ans, on n'a pas fait comme il fallait les réformes de différentes natures, c'est-à-dire de refaire travailler ensemble le pouvoir médical et le pouvoir administratif pour faire en sorte que les moyens soient utilisés le mieux possible et procurer la meilleure santé possible avec des professionnels de santé qui soient peut-être un peu plus considérés. Et notamment, je reviens sur les infirmières parce que quand vous voyez le salaire des infirmières, c'est quand même effarant.
Alors justement, si on revient effectivement aussi sur les propos du président de la République qui au fond a aussi inventé ce nouveau domaine réservé du régalien sanitaire depuis quelques jours, vous avez le sentiment qu'il, avec ses propos, ses paroles et sa manière de s'adresser à la nation, il peut trouver là un ferment d'unité, d'union nationale à travers cette guerre contre le virus ?
Écoutez, le président Macron fait ce qu'il a à faire et je crois qu'il a raison d'appeler à l'union nationale. Nous sommes devant un défi. Je ne veux pas alarmer parce que je suis convaincu qu'on va le remporter. Je rappelle, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la peste, que chaque grande pandémie mondiale a toujours été vaincue, que ce soit la pandémie, la peste, la variole, le choléra, etc. Et on va gagner sur cette bagarre. Mais il faut effectivement, comme l'a rappelé le président Macron, que nous soyons forts, unis. On laisse tomber les polémiques, ce n'est pas le sujet. On fera le bilan après de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on a mal fait. Et surtout qu'il y ait une responsabilisation individuelle et collective pour qu'on essaye de limiter ce pic, cette attaque qui arrive devant nous et qu'on puisse soigner, continuer à soigner du mieux possible tout le monde.
Vous avez ce recul-là, parce que vous avez aussi traité d'autres épidémies, d'autres grippes, d'autres virus. Et de manière générale, vous connaissez aussi cette histoire des épidémies. Ces moments sont des moments qui changent les sociétés, qui change l'ordre mondial, collectif, individuel. Comment on va, selon vous, on peut sortir de cette épreuve ?
C'est un sujet tout à fait passionnant. Là, on sort du contexte spécifique de Covid pour dire que nous sommes devant une crise mondiale, sanitaire, qui est peut-être l'occasion de réfléchir à où va le monde en pratique. C'est-à-dire qu'après qu'on ait eu probablement un peu détruit notre planète, et qu'on arrive à la problématique du réchauffement climatique, dont on sait aussi qu'il va tuer un nombre considérable de gens, on a une opportunité qui est cette crise sanitaire mondiale de réfléchir à où on va, comment on y va. Est-ce que toute cette mondialisation sauvage, j'ai un peu envie de vous dire ce capitalisme financier un peu débridé, est-ce que c'est pas ça qui nous met aujourd'hui dans cette situation de nous mettre en danger sur la planète, danger des humains et sur tous les pays du monde. Donc peut-être une très belle opportunité pour réfléchir à ces sujets.
Ce défi du Covid-19, c'est aussi un accélérateur de la recherche, de la science ?
Colossal. Il y a des recherches tous les jours. Nous sommes inondés d'informations dans les plus grands journaux médicaux, mais aussi par de nouvelles solutions de communication scientifique. Évidemment, l'Internet nous permet de communiquer très vite. Les communications sont mondiales, donc elles sont, de ce point de vue-là, plutôt une très bonne chose. Mais effectivement, il y a des questions à se poser. Et là, peut-être, puisque vous m'interrogez, M. Barré, je vais vous dire un point important aussi que les gens doivent comprendre, c'est que la crise va effectivement probablement engendrer quelques victimes en France. Je rappelle quand même que chaque année, il y a 10 000 décès en France de la grippe. Et que peut-être on sera à la fin de l'histoire, peut-être un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Personne ne peut vous le dire aujourd'hui. Mais que les conséquences de la crise économique vont probablement faire beaucoup, beaucoup plus de victimes. C'est ce qu'on sait de la crise de 2008. La crise de 2008, a posteriori, a engendré une surmortalité dans tous les pays, notamment les pays riches. Parce que quand on devient pauvre, précaire, on ne se soigne plus,
on voit
pas bien chez les médecins, on ne détecte plus, on ne prévient plus, on prend du retard. Et les chiffres sont impressionnants.
Donc il y a une autre crise après la crise sanitaire.
Il y a une autre crise après la crise. Et c'est pour ça, et je comprends bien que les politiques doivent aussi gérer entre l'objectif de soigner et de limiter les décès et limiter les formes graves de la maladie, mais aussi de faire en sorte d'abord que la vie économique ne soit pas complètement à l'arrêt, parce que la vie économique complètement à l'arrêt, c'est les soignants qui ne peuvent pas venir à l'hôpital. Mmh. Et ça pose un problème.
Professeur, est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire, il y aura un Covid-20, peut-être 21, et on n'arrivera pas forcément aussi à l'anticiper de la même façon qu'on n'a pas réussi à anticiper ce Covid-19 ?
Toutes les crises sont là pour que justement on se prépare aux suivantes et il y aura des leçons qui seront retenues de cette Covid-19 qui probablement pour la première fois se comporte un peu comme la grippe, la fameuse grippe espagnole de 1918-1919. Elle est assez similaire en termes de taux de contagiosité, taux de progression. Elle avait à l'époque tué, on dit, entre 50 et 80 millions de gens sur Terre. Elle n'était pas du tout espagnole puisqu'en fait elle partait de Chine déjà, c'est tout à fait intéressant. Et nous sommes devant ce nouveau défi. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'une fois que les choses seront calmées, qu'on aura géré la situation, vous savez que la Chine est en train de revenir en arrière. La Chine, c'est en train de s'arrêter. Et les Chinois, d'ailleurs, réfléchissons ensemble, vont tirer les marrons du feu de cette affaire. On ne va pas dire que c'est eux qui l'ont organisé. Mais en attendant, il y a un rebond économique fantastique à attendre de la Chine. Ils ont même envoyé du matériel et maintenant des médecins en Italie.
En Italie, absolument, voilà. Oui.
Donc, si vous voulez, il faudra faire le bilan. Il faudra probablement anticiper d'autres crises pour qu'on soit encore plus armé et encore mieux armé pour prendre en charge peut-être un Covid 2020 ou 2021.
Alors je vous écoute, professeur Mignon, et je me dis au fond, ce que vous nous expliquez, c'est qu'on est au point de rencontre entre les collapsologues, hein, ceux qui voient effectivement le grand effondrement qui nous prévoit depuis plusieurs années, et ce moment d'espoir aussi lié au retour de la parole scientifique qui retrouve une nouvelle crédibilité. Et ça, c'est la note d'espoir que vous pouvez avoir à ce stade Écoutez, stade 3, c'est, les scientifiques sont de retour et c'est une, pour vous une bonne nouvelle.
Complètement, je ne suis pas collapsologue. S'il s'avérait que les collapsologues donnent des informations qui sont réelles et qui vont se transformer, je pense que face à ce défi, mais il faut se muscler, se préparer, réagir. Et c'est une action collective que nous devons mener et on va la gagner.
C'était le grand rendez-vous du professeur Alexandre Mignon. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission sur podcast. À dimanche.